transistor du lundi au vendredi. Et elle est bien là, l'émission quotidienne. Aujourd'hui, elle rapproche les femmes et les métiers scientifiques et techniques.
L'EM, l'émission sur transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui s'intéresse à toutes les facettes de notre vie en mode optimiste et constructif, si possible, et la plupart du temps c'est possible. On s'attaque aussi à des sommets, on n'a peur de rien. Pour faire progresser l'humanité, on est convaincu que celles qui portent la moitié du ciel, les femmes, selon le proverbe chinois, on est convaincu donc que cette moitié du ciel doit nous éclairer comme l'autre moitié à sa juste place. Et par exemple, il reste encore des domaines à conquérir, comme les métiers techniques et industriels. Il existe en Bretagne une association des femmes ingénieures qui s'est donné cette mission, la mixité dans ces filières souvent très masculines. Aujourd'hui, on reçoit la déléguée de l'association Femmes Ingénieures pour le Grand Ouest et il se trouve qu'elle est aussi l'une des coprésidentes de la radio, c'est Sophie Kouka. Et à ses côtés, Véronique Rioux qui est la toute nouvelle déléguée départementale du Finistère pour Femmes Ingénieures et elle est de Landerneau. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Ah, Véronique, il faut parler plus près du micro.
Bonjour.
Voilà. Alors, un petit état des lieux pour commencer. Est-ce que vous pouvez me donner des chiffres de la présence des femmes dans les études scientifiques, dans les métiers scientifiques, techniques, en Bretagne ou en France ? Enfin, donnez-moi ce que vous avez sous la main. Véronique ?
En fait, bien souvent, en fait, les femmes ingénieures représentent autour de 20% des populations dans les écoles. Et donc après, c'est à peu près pareil sur l'ensemble de la carrière. Alors, il y a des filières qui vont être des filières, par exemple, autour de la chimie, où les femmes vont être davantage représentées. On va plutôt atteindre
même
les
dominant.
50-60%. Voilà.
Ah bon, en chimie, elles sont majoritaires ouais. maintenant
ah, Tout à voilà. fait, oui. Oui, oui. Et même, je dirais, à notre époque, parce que Sophie oui, et moi, on a fait nos études il y a quand même quelques décennies. Et en fait, ça n'évolue pas beaucoup.
Ah oui, et ouais. ça c'est pour les métiers, les femmes ingénieures, mais sinon vous avez creusé dans d'autres métiers scientifiques, techniques, qui ne soient pas ingénieurs, soit juste techniciennes, ou même dans la recherche scientifique.
Alors je dirais qu'effectivement dans les catégories de techniciennes, par exemple sur de la maintenance industrielle, on a très très peu de femmes.
Encore moins, je dirais.
Oui, encore ouais. moins. Là j'en ai vu récemment une qui était en reconversion professionnelle et il faut savoir qu'il y a des freins dans les têtes. Mais en fait une femme qui a envie d'aller dans ces carrières-là, elle est toujours très très bien reçue par des équipes qui sont essentiellement masculines. Mais en fait même une femme au milieu de 10 hommes, ça se passe très très bien. Il ne faut pas avoir d'a priori.
Bon, on va y revenir. De toute façon, là-dessus. Oui, hein,
sur ces fins. Alors, c'est vrai que les chiffres sont parfois trompeurs parce qu'on a des chiffres globaux. Mmh. Mais, comme disait Véronique, ça dépend beaucoup des filières. Par exemple, l'agroalimentaire, alors c'est encore pire que la chimie. On est presque à 75% de femmes dans les ingénieurs agroalimentaires.
Oui.
Et dans le numérique, on est à 10 et on est en train de descendre encore en dessous.
Ah oui, ça redescend alors qu'on a essayé pourtant.
Ouais, tout le monde se
femmes et numériques, tous les ans à Quimper.
Et c'est un point quand même important, c'est que depuis les années 80, on stagne sur ces 20-25%. Bon, ça, voilà. Ça, mais 20, on n'a jamais trop dépassé le quart, mais avec ces différences. C'est-à-dire que selon les secteurs, effectivement, on peut être à 10 ou on peut être à 50. Mais en moyenne, on est à 20-25% et on l'est depuis 30-40 ans. Alors après, en valeur absolue, en 87, on sortait 7000 ingénieurs par an en France, mmh. et aujourd'hui, on est à 52 000, et l'État pousse depuis très longtemps pour que ce soit 60 000. Donc forcément, 25% de 7000, c'est pas pareil.
Oui, ça fait plus de femmes.
Donc il y a plus de femmes ingénieurs, mais en proportion, effectivement, on a toujours cette sous-représentation des femmes dans les métiers. Et c'est de toute façon vrai au niveau des techniciennes. Là aussi, c'est les techniciennes en biologie, etc., il y en a énormément, alors que si on va, comme disait Véronique, sur la maintenance, sur des métiers plus techniques ou numériques, on a beaucoup moins de monde. Mais de toute façon, on a un gros déficit de techniciens en France. On a justement siphonné le réservoir de techniciens pour en faire justement des ingénieurs. Hein. 80% des jeunes qui ont un IUT technique, technique et scientifique, c'est surtout technique pour les BUT, enfin maintenant BUT, ont un diplôme d'ingénieur. Mmh. Mais du coup, on a une pénurie de techniciens. Et au niveau des scientifiques, effectivement, il y a beaucoup de, ouais. De femmes dans les sciences, mais dans les sciences, entre guillemets, dures et techniques, on est aussi à peu près à un quart.
Ah oui, bon,
mais voilà, c'est pas... Là aussi, ça va dépendre des domaines d'expertise. Ouais. Mais les femmes en maths sont... Enfin,
ah oui, les matheuses.
Ouais. Les femmes, c'est assez paradoxal pour les mathématiques. Les filles, globalement, ont un imaginaire alors qu'ils disent que les maths, c'est pour les garçons. Mais quand une fille est vraiment très bonne en maths, en général, elles vont souvent à des niveaux élevés, quoi, de doctorat. De... Donc, c'est pas forcément...
Tout n'est pas perdu, oui.
Oui, et ensuite, bon, bah, c'est vrai que les carrières scientifiques, c'est aussi tout ce qui va être la recherche.
Oui, c'est ça, c'est pour ça que je posais la question.
Et bon, alors moi, j'ai pas les chiffres en tête, mais bon, c'est vrai qu'elles performent bien, elles sont mal connues et elles sont aussi sous-représentées.
Oui, clairement. Après, c'est ça, quand on parle de sciences humaines, bon là, on voit des femmes, même peut-être majoritaires aussi. Après, c'est vrai que quand c'est les sciences qu'on dit dures, physique, peut-être qu'il y en a un petit peu moins. Ouais,
voilà,
c'est
tout
ça.
Ce qui veut être même sciences de la vie, hein, ou sciences...
Un peu plus, sciences de la vie, je dirais.
Plus, mais bon, voilà, il y a de la place de toute façon pour les femmes dans des carrières scientifiques, et même quand on parle de carrière d'ingénieur, ça peut être aussi sur les ingénieurs dans le domaine de la santé.
Bien sûr.
Oui, ben bien sûr, ce n'est pas...
Qu'est-ce que c'est une ingénieure dans le domaine de la santé, par exemple ?
Eh ben, par exemple, moi j'ai une jeune fille autour de moi, là, qui a moins de 30 ans, elle est ingénieure, et en fait, elle a développé des respirateurs artificiels, en particulier dans la période du Covid. Ça peut être aussi toutes les plateformes informatiques dans le domaine de la santé, la robotique dans le domaine de la santé, tout ce qui va être l'assistance aux personnes qui ont difficulté dans quel que soit l'environnement.
Les prothèses. Conception et réalisation de prothèses, l'imagerie médicale. Hein, la France est le premier monde.
Oui, c'est ça.
C'est le secteur. La France est le premier dans le secteur de l'imagerie médicale au monde. C'est entre autres parce qu'on a une vraie bonne compétence en matière d'ingénieur. C'est aussi lié à notre système d'achat qui fait que.
Ah bon, ok.
On est un bon marché. De la technologie. Ah, ouais. À chaque fois qu'il va y avoir de la technologie, de la gestion des données, du développement, je dirais, eh ben, en fait, on va avoir des ingénieurs derrière, forcément.
Oui. D'accord.
Et dans un hôpital, par exemple, la maintenance de l'hôpital, la direction de la blanchisserie, en général, la blanchisserie, c'est une petite usine de 80 personnes. Il y a tout un tas de... Bah, l'informatique, bien sûr. Il y a beaucoup de fonctions très techniques dans un hôpital.
C'est pas tenu par des médecins, c'est des
ingénieurs qui peuvent donc être des femmes.
Enfin. Eh oui, tout à fait. Alors, il y a peut-être, on va revenir sur ce qui freine, le pourquoi il y a vraiment une sous-représentation des femmes dans ces métiers. Mais déjà, moi, j'ai quand même envie de poser cette question fondamentale et philosophique. C'est pourquoi c'est important, finalement, qu'elles soient là. Est-ce que c'est grave qu'elles soient moins nombreuses ? Véronique ?
Alors, en fait, notre monde utilise quand même de plus en plus de technologies. Et la technologie, ça influence le développement de notre société dans tous les domaines, hein, je dirais. La façon de communiquer, on parle des réseaux, on parle de plein de choses. Les outils, les téléphones, les types d'emplois qui sont développés dans les entreprises ou dans l'ensemble de l'environnement économique. La façon de gérer les informations. On peut parler aussi, on parle de consommation d'énergie, on parle de réchauffement de la planète. Donc en fait, tout ça, ce sont des technologies, utilise des technologies, et la façon de penser des femmes va permettre aussi d'influencer la façon dont on construit l'avenir de notre société.
Tophie ?
Je trouve que c'est un argument très très fort.
Parce qu'on a une façon de penser différente peut-être ?
Alors bon, on ne va pas revenir sur le fait si c'est...
C'est une question. Une expérience différente.
De fait, les femmes et les hommes, quand on étudie comment ils fonctionnent différemment. Après, ce que là où je ne remettrai pas le pied, c'est est-ce que c'est acquis ou pas acquis réalité, c'est que c'est vrai. Donc, même dans la R&D, on sait que justement, un des problèmes de l'informatique, c'est l'absence de femmes. Il y a plein de biais, il y a plein de choses qui fonctionneraient différemment s'il y avait beaucoup plus de femmes dans les conceptions et dans la... Voilà.
On pense à l'intelligence artificielle, n'est-ce pas ?
Entre autres.
Notamment. Mais les données, sont majoritairement masculines, c'est sûr que l'intelligence artificielle répondra à des besoins masculins, plutôt.
Mais un truc beaucoup plus ancré, on va dire, encore dans les mœurs, les GPS. Les femmes se repèrent pas dans l'espace de la même façon que les hommes, et la façon dont les informations sont mises, transmises, etc., sont très masculines dans un GPS. C'est des voix de femmes, d'accord, mais c'est très masculin dans la façon dont c'est pensé.
Ah oui.
Mais moi, je sais, hein, quand j'ai travaillé, je devais aller quelque part et que je voulais avoir des explications. Bon, à l'époque où il n'y avait pas encore les GPS, même après d'ailleurs, je demandais toujours, mon interlocuteur était un homme, je ne lui demandais pas comment je faisais pour venir le voir. Je le rappelais, et, ou je lui demandais s'il y avait une secrétaire, enfin, ou je rappelais, parce qu'en général, à l'accueil, c'était une dame.
Tiens, bizarre.
Et je demandais à la dame à l'accueil. Et en général,
de décrire le parcours, fin de, ouais, de donner les indications.
Les indications, ah oui. Parce que je savais que là, j'allais m'en sortir très bien. Alors que souvent, avec les explications du monsieur, j'étais obligée de rappeler. Pour
intéressant. C'est souvent comme ça. C'est sans doute culturel.
C'est un détail, mais ouais. Je ne sais pas si c'est culturel. Parce
Je crois savoir que justement, les femmes donnent plus des détails sur le décor, c'est
exactement.
Ça.
Exactement, elles donnent des
droite,
repères.
Etc.
Elles donnent des repères.
Les hommes, ça va être l'ouest. Et ça, c'est bon, voilà. On sait pas si c'est enfin, c'est pas forcément lié à la forme de notre cerveau, c'est l'éducation.
Voilà. Juste le fait qu'il est là, et de toute façon, on discute avec les gens. On voit, il suffit de regarder après d'où ça vient, c'est encore autre chose, comprendre d'où ça vient. Mais le fait est là. Et s'il y avait eu des femmes plus dans la conception des GPS, peut-être qu'ils seraient plus adaptés à l'usage. Et c'est pareil pour les femmes n'utilisent pas la voiture. Enfin, moi, des années après, je me dis toujours, mais mon Dieu, pourquoi il n'y a pas plus de femmes dans la R&D des voitures? Parce qu'on n'est pas sensible aux mêmes détails. Par exemple, un truc, on va prendre un exemple crétin.
Ouais,
pourquoi il y a de la moquette dans les voitures?
Oui, pourquoi? C'est vrai.
Pourquoi il y a de la moquette? Parce que quand on a des enfants, moi j'ai eu des enfants qui étaient malades en voiture, une voiture où les enfants étaient malades, voilà. Et je disais, genre, mais pourquoi ils ne mettent pas du lido? C'est quand même plus facile à nettoyer. Parce que la moquette. Et c'est encore vrai aujourd'hui, c'est encore comme ça. La moquette, ça fait plus luxueux. Enfin, il faut voir que pour les hommes, les messieurs... La voiture, pour la plupart des femmes, c'est un objet utilitaire. Le côté utilitaire.
Il faut qu'elle roule.
Alors que pour la majorité des hommes, c'est...
Il y a le statut, une identité, etc.
C'est pour ça, les fauteuils qui ne se nettoient pas. Donc, c'est déjà rien que dans la R&D, parce qu'on ne se rend pas compte de tous les...
R&D, recherche et développement,
excusez-moi.
Vous demanderez.
Recherche et développement, je m'excuse auprès des auditeurs. Ce serait important qu'il y ait plus de femmes. Voilà. Rien que ça, dans la vie. Et puis, moi, j'ai encore un truc assez philosophique, puisque la question était philosophique, c'est aussi une reconnaissance d'une réelle compétence. C'est-à-dire que s'il n'y a pas autant de femmes que d'hommes dans les métiers techniques et scientifiques, et mathématiques, enfin si on est dans tout ce domaine-là, c'est absolument pas parce que les femmes sont moins compétentes dans ces métiers-là. Enfin, dans ces matières, intellectuellement, elles sont vraiment à niveau, et même, pour être honnête, c'est plutôt les femmes qui sont en tête de classe dans qui sont plutôt dans les études dans ces domaines-là. C'est plutôt les filles sont minoritaires, mais elles sont dans les premières. Ça serait une reconnaissance de fait de cette compétence, parce que tant qu'on restera sur des métiers, on se dit c'est normal, c'est parce qu'en fait c'est pas tant leur domaine. C'est autant leur domaine. C'est l'idée qu'elles s'en font, ou du moins l'imaginaire des petites filles, et ça s'étudie.
Oui, mais là, on va en venir au fond.
Mais ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas
parce qu'elles ne sont pas capables. Oui, Véronique, oui.
Oui, je pense qu'effectivement, pour rebondir sur ce que dit Sophie, c'est en fait, si les femmes sont plus impliquées dans tous les domaines justement techniques, elles vont aussi être à la source de l'expression des besoins pour orienter en fait les projets qu'on va définir. Elles ont des priorités qui sont différentes, une sensibilité qui est différente. Et surtout aussi, ça va adapter l'ergonomie. Parce qu'on peut avoir effectivement un certain nombre de choses qui ne sont pas adaptées à l'ergonomie féminine. Qui vont avoir... Tout à l'heure, on parlait de la vision dans l'espace. Ouais. Mais même, on va parler de la vision dans l'espace, et ça, je souscris à ça. Par exemple, on va avoir des plans qui sont affichés, et bien quelquefois, qui ne vont pas être orientés d'une façon où en fait, les femmes vont facilement s'orienter dessus. C'est vrai que
comme pour le GPS
comme pour le GPS, mais ça peut être pour j'ai pas d'exemple concret, mais même sur la façon de concevoir les téléphones, sur tous les instruments de cuisine ou autres, je veux dire, je parle de cuisine parce que c'est vrai, on est souvent dans la cuisine, mais ça peut être pour tout ce qu'on utilise dans le quotidien. Les femmes, elles ont aussi une sensibilité, un besoin qu'il faut exprimer et qu'on est capable d'exprimer et qu'on est capable de concevoir. C'est ça qu'il ne faut pas oublier.
Alors par exemple, la sécurité.
Ah bah oui,
les femmes sont beaucoup plus sensibles aux aspects de protection des enfants que les messieurs.
Il y a plus de demandes à
même
ce niveau-là.
Même s'il y a bien sûr des messieurs, mais voilà.
Oui. Et alors, qu'est-ce qui freine ? Pourquoi est-ce que ça ne bouge pas ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu assez de politique publique, déjà, pour commencer, pour améliorer le recrutement, enfin, les études des femmes, ou pas ? Moi, je ne me suis pas penchée sur la question. Hein. C'est vous, l'association Femmes Ingénieurs.
Je pense qu'effectivement, ce n'est pas forcément très clair. Moi, j'ai fait pas mal de covoiturage avec des jeunes femmes qui étaient dans des carrières scientifiques. Et du coup, j'aurais posé la question. Ce n'est pas forcément si évident que ça. Mais je pense qu'il y a un manque de projection personnelle dans ces carrières-là. On va se projeter dans des choses qu'on connaît. On va être plus dans le soin, dans ce pourquoi on voit les femmes de façon générale dans la société.
Dans ce pourquoi on est éduqué. Je pense.
Voilà, c'est
tout
ça.
Simplement.
Effectivement. Ouais. Et en fait, je pense que c'est aussi les modèles que vont construire la société, les parents, l'environnement, et qui inconsciemment vont projeter les enfants.
Les enseignants.
Ouais. Alors justement, il y a toujours cette fameuse histoire.
Oui, tout l'environnement, je dirais. Ouais, hein, c'est ça.
Oui, les fameux noms sur la Tour Eiffel, les noms des grands hommes sur la Tour Eiffel, enfin qui étaient essentiellement des scientifiques, je crois, hein, d'ailleurs, qui n'étaient donc que des hommes. Alors ça y est, on a changé, on a mis des femmes. Enfin, bon, je sais pas qui va pouvoir les voir les noms sur la Tour Eiffel, mais bon, déjà ça. C'est vrai, le manque de figures féminines, à part Marie Curie, c'est toujours Marie Curie, quoi. C'est vrai, les femmes scientifiques.
On y travaille. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens en fait qui font des choses. Dans beaucoup de lycées maintenant, il y a des noms les salles ont des noms de personnes, pas forcément d'ailleurs des scientifiques, mais dans la partie scientifique en général, c'est scientifique. Il y a beaucoup de lycées où maintenant c'est mixte, enfin c'est équilibré, c'est 50-50. Je connais même deux établissements où c'est que des femmes. Parce que justement, en disant, tant qu'à faire, on va remonter la pente, donc on a mis 100% de femmes. Oui, et un imaginaire, ça ne se travaille pas dans la durée, c'est plus long. Mais ça bouge quand même, de ce côté-là, ça bouge. Quand on parle des pouvoirs publics, alors il y a déjà quand même un premier problème, on est déficitaire d'ingénieurs et de techniciens en général.
On l'a dit un peu au début d'émission, on manque de toute façon.
Pas que les femmes. Et un des problèmes qui est souvent mis sur la table, c'est la formation des gens qui finalement accèdent au pouvoir.
Qui ne sont pas du tout des techniciens, ni des ingénieurs, ni des scientifiques.
C'est des gens qui sont... Et souvent, comme quand même l'école avait valorisé ses compétences en mathématiques, etc., non seulement qu'ils sont pas qu'ont pas suivi des études qui ont beaucoup de parties techniques et scientifiques, ou mathématiques, mais qui en plus, quasiment, sont allés dans ces filières parce qu'ils n'étaient pas bons dans les autres. Donc il y a quelque chose...
Et pan.
Ouais, mais il y a quelque chose qui fait que déjà au niveau vraiment haut du pouvoir,
intérêt pour le sujet en fait,
que ce soit au niveau des députés, des décideurs, des ministres, etc. Envoyez pas énormément qui ont cette
un bagage
formation là
et technique, non, c'est
et vrai. c'est d'ailleurs un vrai problème, parce qu'aujourd'hui ils prennent ils votent des lois, etc., sur des sujets où objectivement ils comprennent rien.
C'est ça le problème.
Et c'est un sacré problème.
Il est clair que lorsque on a arrêté l'obligation d'avoir des maths dans les classes de première terminale,
la réforme du bac,
ça paraissait la une dernière vraie catastrophe.
Mais c'est un vrai problème. Non, mais il faut se dire que ça fait partie du problème. Mais c'est pas que pour les filles. Là, c'est pas une question de filles ou garçons.
C'était beaucoup des filles qui du coup ne prenaient pas les maths, quoi. Et c'est vrai que du coup, derrière, on se ferme tout un champ de carrière.
C'est même pas qu'elles prennent pas les maths. Là, on passe le message pour les jeunes qui vont choisir leurs options.
Tous les jeunes. Ouais.
C'est que il faut aujourd'hui, si on veut pouvoir continuer dans ces filières-là, il faut prendre que ça. Les filles, c'est pas qu'elles prenaient pas les maths, c'est qu'elles prenaient d'autres choses. Elles variaient.
C'est quand même intéressant de varier aussi.
Tout à fait. Sauf qu'aujourd'hui, vu le gap entre... Parce qu'on réforme avant le bac et on réforme pas après. Donc au bout d'un moment, on finit pas. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas maths, maths plus, maths physique, déjà maths, sciences de l'ingénieur, c'est ric-rac. Mais je vais prendre un cas encore plus énorme. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez faire vétérinaire, on peut se dire, c'est des gens qui s'intéressent à la nature, aux animaux, tout ça. Et si vous avez pris bio comme option
en
seconde, vous ne pourrez pas rentrer.
On se demande bien
pourquoi. Il faut que des maths. Parce qu'ils vous disent, c'est plus facile de rattraper la biologie que de rattraper les maths.
Mais a-t-on besoin de tant de mathématiques que ça pour le vétérinaire? Non, mais bah, c'est aussi la question.
Mais,
hein.
Mais la réalité, elle est qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas l'option, si vous avez pris une option bio, vous déposez votre dossier.
Oui, mais parce qu'on a fait longtemps une sélection par les maths, mais alors, c'est peut-être un problème.
Il faut voir que les maths sont formateurs de l'esprit. En fait, c'est ça qui va apprendre à apprendre. Et c'est vrai qu'il y a un certain... Et apprendre à bien penser. Non, ça en fait partie. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que toutes les carrières dont on est en train de parler n'utilisent pas exclusivement les maths, pas du tout même.
En
fait, les langues sont essentielles. Toutes les sciences, je dirais, histoire, géo, philosophie, littérature...
Le français.
Toute la culture va être essentielle aussi.
Bah oui,
mais
donc...
par contre, si on n'a pas fait les maths à un moment donné, ça ne se rattrape pas.
D'accord.
Alors qu'il n'y a aucun problème, et il faut en plus le faire, c'est que si on a fait des maths et de la physique à cette époque-là, c'est-à-dire au moment du bac et au moment de l'orientation, toutes les autres matières... Il faut les faire après, et on le fera. Et ça, ça va être suivant l'appétence de chacun.
Je ne sais pas si ça peut vraiment se rattraper, franchement, un déficit de français dès le départ. Enfin bon, ça c'est mon point de vue, mais
on est
voilà.
D'accord, il ne faut pas de déficit de français non plus.
En fait, je pense que là, il y a un problème qu'on n'a pas abordé.
C'est aussi l'enseignement.
Non, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire.
Les maths.
Qu'est-ce que c'est que les formations qu'on propose aux gens? Parce qu'il y a ce test très célèbre sur les filles et les garçons qu'on sépare, et on leur donne le même exercice, mais aux filles, on leur dit « c'est du dessin », et aux garçons, on leur dit c'est des maths, et en fait, on se rend compte que les filles réussissent aussi bien que les garçons, mais simplement, elles avaient comme une sorte de blocage parce qu'on leur avait dit que c'est des maths. Enfin, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème sur la façon dont on enseigne les sciences en général. Hein, je veux dire les...
Et sur la représentation mentale qu'ont les jeunes, puisque effectivement, il suffit de changer le nom de l'exercice pour que tout d'un coup, voilà, donc ça prouve bien à quel point l'imaginaire est qui véhiculé par leur environnement, enfin par tout le monde.
Parce que ceux qui ont fait les programmes,
énormément.
Je dis ceux, c'est sûrement des hommes, en fait. Il y a peut-être ça aussi. Les programmes scolaires ont été construits par des hommes. Donc, il y a peut-être ça aussi à revoir.
Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on en parle effectivement comme quelque chose d'un petit peu compliqué, des maths. Moi, personnellement, quand j'étais dans ces catégories d'âge-là, je voyais ça comme la construction d'un monde mental imaginaire.
Ouais, c'est un jeu, ça peut
être un
jeu.
Des théorèmes, des axiomes, et un jeu. Et en fait, on se construit un monde imaginaire, voilà. Et à partir de là, on peut tout faire, quoi. Voilà, c'est la façon de le présenter.
Exactement.
Voilà, tout à fait. Je pense que c'est ça qui est important.
Oui. Et puis, alors les modèles, donc on commence à en avoir un peu plus. Les immersions, peut-être, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme moyen pour convaincre les... Enfin, on en a parlé un petit peu aussi au début, c'est-à-dire avoir idée des métiers qui existent derrière. Ces métiers ne se font pas connaître.
Là,
en fait.
on est sur une problématique assez globale en France, qui est l'orientation et qui est une très mauvaise connaissance des métiers par les jeunes, donc ingénieur ou autre. D'ailleurs, ingénieur, c'est un titre, c'est pas un métier.
Exactement.
Il y a des milliers de métiers possibles avec ce titre-là. Mais ça, oui, c'est un vrai problème, parce qu'on demande aux jeunes de choisir de plus en plus tôt des voies d'orientation, alors même que les pauvres, d'abord parce que les métiers ont explosé. Je pense qu'il y a Il y a 150 ans, il y avait moins de métiers, alors qu'aujourd'hui, et en plus, il y en a qui disparaissent, qui naissent. Enfin, c'est très compliqué. C'est pour ça que le côté apprendre, enfin, ne plus avoir la prétention d'apprendre un métier, mais d'apprendre, de comprendre que c'est un espèce de, pas de formatage, j'aime pas trop le formatage, mais un espèce de câblage intellectuel, de culture générale, enfin voilà, un câblage qui va permettre de pouvoir s'adapter à tout un tas d'environnements professionnels et de bien faire son métier, ça serait déjà plus réaliste. Plutôt que de dire on... Mais c'est sûr que l'école a un rôle très important à jouer sur la découverte des métiers, qu'elle fait les pauvres comme ils peuvent, hein, parce qu'ils se donnent du mal, hein. Franchement, il y a des tas de gens qui se donnent du mal, mais ils n'ont pas de place dans les programmes, ils n'ont pas, enfin bref. Et en plus, il faudrait le faire très tôt, c'est-à-dire que le bon moment pour la découverte des métiers, c'est la maternelle et la primaire.
C'est ça. Ouais, faut pas attendre.
Hein. Non, parce que c'est un âge où on est ouvert sur le monde, on se pose des tas de questions, alors que quand on va rentrer dans la puberté, c'est un moment où on est plus centré sur soi, sur ses pères,
ses camarades.
C'est un moment d'évolution de la personne. Mais c'est pas le bon moment pour aller venir parler de tout un tas de trucs. Et ça va se rouvrir un peu après. Mais c'est trop tard, puisque c'est à la sortie du collège qu'il faut commencer à faire les orientations.
Il nous reste 2 minutes pour... Alors, tant pis, vous ne parlerez pas de vos expériences personnelles. Mais j'aurais voulu savoir ce que l'association Femmes Ingénieures faisait concrètement en Bretagne et dans le Finistère, Véronique Rioux aussi. Si vous commencez tout juste, vous avez peut-être prévu des actions
Ce qu'on prévoit effectivement, c'est un petit peu comme disait Sophie, c'est d'aller toucher les jeunes le plus tôt possible. Alors bon, on vise plutôt la partie collège, je dirais, au moment d'aller parler effectivement aux jeunes filles, mais aussi aux jeunes hommes. Enfin, je dis, il faut que tout le monde ait connaissance de l'ensemble de ces métiers, mais c'est vrai que d'ouvrir un petit peu et d'aller de les toucher, eux, à cet âge-là, pour qu'effectivement, ils puissent en parler. Alors aussi, toucher leur famille, hein, je veux dire, dans les salons.
Il y a beaucoup de blocages
qui viennent des familles. Voilà, oui, c'est vrai. Moi, ça m'est arrivé de parler, effectivement, de parler à des familles qui, effectivement, n'avaient pas imaginé ces métiers-là pour des jeunes filles. Imaginez quelquefois pour des jeunes hommes. Mais le contraire est vrai aussi. Hein,
oui, oui.
Voilà. Mm-hmm. Donc, effectivement, ça, c'est un des points importants.
Donc, on est dans les salons d'orientation.
Oui, déjà. Voilà. À la source.
Voilà. Et après, je pense qu'il faut, trouver le moyen aussi de... Je discutais l'autre jour avec une CPE d'un collège de Landerneau. Et en fait, les jeunes à cet âge-là, surtout les jeunes filles, n'ont pas beaucoup confiance en eux.
Ben oui,
c'est ça. Donc, en fait, je pense qu'il faut arriver à leur donner confiance, qu'ils arrivent à se poser, à poser des questions et à, derrière, à se dire, ben oui, moi, je suis capable. Mm-hmm. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu la hantise de se dire, ah ben oui, mais ça va être des études longues... Et surtout de dire, il y a du boulot.
Ah bah oui, non,
il y a
ça,
du boulot
hein,
et on gagne bien sa vie.
En plus.
Voilà, ouais. Et je pense qu'effectivement, ouais. Si on parle d'égalité homme-femme, c'est aussi ça, hein, c'est d'aller vers des boulots, enfin vers des catégories bien payées, où il y a du travail, où on est reconnu, et derrière, où on peut se développer. Mm-hmm. Et voilà, il faut se dire que derrière, même si on parle de technologie, on parle de maths, c'est ça va être des carrières où on va être beaucoup dans le contact avec les autres. Les langues, le contact avec les autres, le travail en projet, on n'est jamais tout seul.
Voilà.
Et donc, en fait, on va faire des études sur de la technique et en fait, derrière, on va être tout le temps dans du contact avec les autres.
Bon, bah, très bien, on va s'arrêter sur cette bonne parole.
Et aussi sur les jeux.
Voilà. Très bien, bon, on va s'arrêter sur cette bonne parole et on mettra les coordonnées de l'association Femmes Ingénieurs sur le site internet de la radio. Merci à toutes les deux.
Merci Véronique.